Chapitre 103. Mont Arara, camp kurde, Turquie. Arsène Parella tourna vers Cécile sa face réjouie, rougie par le soleil et le vent d'altitude. Au-dessus d'eux, l'alpage s'élevait encore sur une centaine de mètres, puis disparaissait dans un long plateau invisible fermé par les glaciers de la gorge d'Aora. Le professeur observait avec une émotion visible le profil de l'animal mythique, comme un homme qui retrouve ses animaux domestiques après une longue absence. La licorne broutait paisiblement sur le rebord du plateau. Arsène fouilla dans sa poche et tendit à Cécile une poignée de miettes de barres de céréales.
« Ouvrez la main, Cécile. Prenez. Elle va s'approcher. »
Les miettes glissèrent dans sa paume telle une poudre d'or. Cécile obéit, hypnotisée. Elle avança le bras, ouvrit la main et patienta dans la même attitude qu'elle adoptait lorsqu'enfant, à la lisière d'un champ, elle espérait attirer un cheval, sans l'effrayer, derrière un grillage. La licorne leva la tête, hésita un instant, puis dévala avec grâce la colline. Tout d'abord, Cécile remarqua la taille de l'animal qui galopait vers eux. Moins d'un mètre au garrot, les proportions d'une grosse chèvre. La chercheuse repensa aux paroles de Zach dans le musée du Moyen-Âge.
« Dans les textes anciens, la licorne est toujours figurée sous l'apparence d'une chèvre. »
L'animal trottait maintenant à une dizaine de mètres de sa main. La chèvre unicorne était recouverte d'un pelage brun, assez ras, plus proche de la robe d'un cheval que d'un lainage. Quelques mètres encore. L'animal lui jeta un regard méfiant, le dirigea vers Arsène, comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger, puis avança le museau. Le bourrelet de sa lèvre supérieure se frotta contre la peau de la jeune femme pendant qu'une langue avide appelait les miettes. Cécile éclata d'un rire cristallin qui se propagea en écho dans la gorge d'Aora, comme un torrent coulant jusqu'au Nakhitchevan. Les explications de Zach dans l'hôtel de Cluny étaient tout sauf anodines.
Il existe une pratique courante chez certaines tribus de bergers. La tradition consiste à tordre les cornes encore tendres de jeunes chevreaux, de boucs angora ou d'antilopes, et les entrelacer, afin qu'à l'âge adulte, elles n'en forment plus qu'une, bizarrement torsadée.
Toute cette histoire de licorne n'était qu'une farce. La chèvre qui broutait dans sa main n'était pas un animal unicorne. En l'examinant, on voyait distinctement que les deux cornes avaient été rassemblées, comme parfois deux troncs d'arbres trop proches poussent en se mêlant. Cécile souffla. La raison l'emportait. Aucune licorne ne se promenait en liberté sur la Rara. La légende était simplement entretenue par la défiguration de ces pauvres bêtes, une coutume pastorale aussi pathétique qu'ancestrale. Évidemment liée au mythe de l'Arche de Noé. La main de la chercheuse s'égara dans le doux pelage brun de la chèvre qui lui léchait tendrement la paume. Cécile fouilla dans sa poche à la recherche d'une autre friandise. Elle songeait aux mots prononcés par Aman, la fillette prisonnière d'Ishak Pacha.
« Ils veulent que je leur montre les licornes. »
Elle comprenait à présent. Depuis la nuit des temps, les enfants des nomades gardent les chèvres, toutes sortes de races de chèvres. Chèvre naine en Guinée, chèvre pan en Suisse, chèvre angora en Anatolie, chèvre artificiellement unicorne sur la Rara. Elle se tourna rayonnante vers Arsène Parella. Après une longue apnée dans les rationnels, son esprit de chercheuse cartésienne retrouvait à nouveau l'air frais. Un mystère de plus s'éclaircissait.
« Le reste du troupeau doit paître derrière la colline, » précisa le professeur, « sur le plateau, autour du campement. »
« Allons-y !» Cécile caressait toujours tendrement la chèvre qui passait maintenant sa langue sur son poignet, sa corne tressée se frottant contre son bras. Tout se déroula alors très vite. Un cri désespéré d'abord, qui traversa l'herbage.
« Non !»
Un cri aigu, à peine humain. Qu'en tous les cas, aucun adulte n'aurait pu pousser avec un tel accent de terreur. Ensuite, la minuscule silhouette apparut. Une fillette d'une dizaine d'années, peut-être plus, car elle était grande. Un visage d'ange horrifié. Puis, dans la même seconde, une détonation retentit et la tête de la chèvre unicorne explosa.
« Bienvenue !»
fit une voix d'outre-tombe.
« Nous vous attendions. Vous êtes presque les derniers. »
Une vingtaine d'hommes armés de Kalachnikov surgirent sur le rebord du plateau. Deux d'entre eux saisirent sans ménagement la fillette par la taille. Cortès se montra enfin.
Le turban pourpre qui dissimulait son visage se détachait à peine sur le ciel indigo. Il triomphait.
« Chers amis, vous noterez que cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. Rien ne sert de vous poursuivre. Il suffit de vous attendre, au bon endroit. »
Les fusils-mitrailleurs se braquèrent sur eux.
« Montez, je vous en prie. »
Cécile et Arsène découvrirent le campement dès qu'ils eurent gravi la colline. Il était installé dans une petite cuvette au centre du plateau, à quelques centaines de mètres du gouffre d'Aora. Une dizaine de tentes, en peau de chèvre pour les plus robustes, en roseaux tressés pour les autres, se dressaient en arc de cercle. Au centre, sous la menace d'une dizaine de miliciens armés, des familles kurdes se tenaient assises. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Alors qu'ils s'approchaient, entourés par l'escorte, Cécile porta la main à sa bouche et réfréna une remontée de bile. Devant eux, une nuée de mouches bourdonnait autour des cadavres de 7 carabaches. À en juger par le sang frais, ils avaient été abattus il y a moins d'une heure. Aman se débattait entre les bras de ses tortionnaires.
« Kangi !»
hurlait-elle en découvrant la dépouille d'un des chiens.
« Kangi !»
Un homme leva la crosse de son fusil, mais une des femmes kurdes fut la plus prompte.
« Ça suffit, Aman !»
La fillette se tut avant que la crosse ne s'abatte. Cortès éclata de rire.
« Que cette petite furie retourne voir sa mère. Elle l'a bien méritée, après tout. C'est elle qui nous a conduits ici. »
La fillette courut se réfugier parmi les siens. Cécile observa plus en détail le campement. Curieusement, tous les bergers kurdes et leurs familles possédaient des caractéristiques communes. Une haute taille, y compris les femmes, des cheveux noirs, raides, assez longs, et surtout, d'étonnants yeux clairs, presque gris, comme elle en avait rarement vu. Ils se dégageaient de cette communauté de nomades, même réduits à la condition de prisonniers, une force et une dignité impressionnantes, quasiment surnaturelles. Au loin, dispersés sur le plateau, des chèvres, indifférentes au drame qui se jouait, erraient à la recherche de maigres touffes à brouter, certaines unicornes, d'autres non. Le regard de Cécile embrassa l'ensemble du site. Tentes, bergers, mercenaires, alpages, roches et séracs. Nulle trace de Zach et de Yaline. Tout espoir n'était donc pas perdu. Les deux frères connaissaient la montagne sur le bout des doigts. Ils n'allaient pas se jeter comme eux dans la gueule du loup. Ils...
« Docteur Serval !»
ironisa Cortès.
« Si c'est pour ce brave Zeytin que vous vous inquiétez, rassurez-vous, il ne va pas tarder. Hisser ses 100 kilos à près de 4 000 mètres d'altitude est une sacrée épreuve pour lui. On ne l'a pas attendu. Nous tenions à ne pas manquer votre arrivée. Mais notre Zeytin est têtu. Il sera là d'ici peu, avec une surprise. »
Il éclata de rire tout en les faisant avancer au centre du campement.
« Prenez place, professeur Parella, docteur Serval. L'hospitalité des Kurdes de l'Arara est légendaire, non ?»
Cécile et Arsène s'accroupirent au milieu des bergers. Un nomade moustachu aux dents pourries se poussa pour leur laisser une place. Aman se tenait juste en face d'eux, blotti dans les bras de sa mère, serrant entre ses doigts sa petite licorne de bois. Cortès fit signe à ses hommes de s'éloigner, sans abandonner toutefois leur surveillance. Les miliciens formèrent un cercle autour du camp, d'autres se postèrent sur une arête rocheuse de basalte, dominant la cuvette. Cortès s'éclaircit la voix.
« Nous serons plus tranquilles pour discuter. Docteur Serval, je dois vous remercier. Votre rapport RS2A 2014 m'a été d'une aide plus que précieuse. En toute courtoisie, je me dois en retour de vous raconter une histoire. Comment pourrais-je dire, pour être précis, une histoire édifiante ?